France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, il ne fallait pas se fier aux apparences. Apollon, le dieu splendide, radieux, né de Zeus et de la divine Leto, était jeune et beau éternellement. Les longues boucles de ses cheveux éclatants de lumière flottaient librement sur ses épaules, il ne les coupait pas, montrant par là qu'il voulait rester perpétuellement jeune, en deçà du seuil de l'âge adulte, en deçà du moment définitif où les dieux, comme les hommes, se devaient d'être responsables, avisés, fiables. Il voulait garder pour toujours la tresse solaire de la jeunesse, dans une innocence prolongée. Fier de sa beauté, souriant, il charmait tant et tant. Les femmes et les hommes de Grèce n'avaient bien évidemment jamais vu ce dieu. Ils ne connaissaient son visage que par les statues à son image qui lui étaient offertes dans ses temples ou dans les rues. Ces statues sacrées lui donnaient cet aspect radieux, solaire, heureux.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Mais Apollon n'était pas seulement grâce, beauté et plaisir, c'était aussi un dieu de terreur. Souvent, il se montrait effrayant, sanguinaire. Armé de son arc légendaire, il tuait beaucoup avec précision, bêtes, monstres, foules de guerriers, héros, enfants, sans jamais manquer sa cible. Le jeune et bel Achille, qui lui ressemblait tant, qui lui aussi laissait flotter ses cheveux, en a fait l'expérience amère. Apollon lui-même a guidé la flèche, qui traîtreusement l'a tué. Et le dieu prenait plaisir à ses meurtres, avec le sourire. Le jour où, pour la première fois, tout jeune encore, Apollon a rejoint les autres dieux dans la grande salle de l'Olympe, son arrivée a eu un effet surprenant. Elle a terrifié tout le monde. De peur, déesses et dieux se sont levés de leur siège. Il faut dire qu'Apollon tenait à la main un arc bien tendu et menaçant, son arme fétiche. Il n'y eut que ses parents pour rester calmes et assis, l'un à côté de l'autre. Son père Zeus, le dieu souverain, et sa mère Leto, la divine, petite fille comme Zeus de terre et de ciel. Le couple des parents était ravi par l'apparition aussi spectaculaire et impressionnante de leur fils. Leto sourit, fière d'avoir engendré un tel enfant. Elle détend la corde de l'arc et suspend cet arc à une colonne du palais divin juste au-dessus du trône de Zeus. Un autre trône est offert à Apollon.
Alors, son père Zeus lui donna du nectar dans une coupe d'or. Il le désignait comme son fils chéri. Puis tous les autres dieux reprirent place. Leto, la souveraine, était en joie. Elle avait mis au monde un fils puissant, un archer.
Ce dieu est une énigme. Comment peut-il être à la fois charmant, plein de grâce et en même temps violent, cruel, avide de tuer? Apollon, le dieu double, interloquait les Grecs. Il le priait un peu partout en Grèce dans des fêtes solennelles, avec d'immenses sacrifices. Ils affluaient en masse dans son sanctuaire grandiose de Delphes, craintifs mais confiants, pour l'interroger sur leur avenir. Ils savaient que ces oracles transmis par la Pythie, sa prêtresse, étaient toujours vrais.
Je viens voir la Pythie.
Seuls ceux qui ont reçu la lumière d'Apollon peuvent entrer.
Et comment fait-on pour la recevoir?
On fait la queue comme tout le monde.
J'ai l'air de quelqu'un qui fait la queue?
Il voyait aussi en lui un dieu médecin, un guérisseur, un dieu qui purifiait les suppliants de leurs souillures et même du sang qu'ils avaient versé s'ils avaient été criminels. Mais les Grecs voyaient aussi en lui un dieu de colère qui versait le sang. Le nom même d'Apollon ne plaide pas en faveur d'un dieu de sérénité, de charme et de beauté. Plusieurs linguistes nous invitent maintenant à entendre dans le nom Apollon l'écho d'un mot grec très ancien, le mot Apella, qui désigne un rassemblement d'hommes en armes. Le mot a survécu à l'époque dite classique de la Grèce ancienne, notamment à Sparte, dans le Péloponnèse. On l'employait pour désigner l'assemblée solennelle où l'on intégrait dans le corps social les jeunes gens, encore porteurs d'une longue chevelure.
L'intégration passait par l'appartenance de ces jeunes à des bandes armées, bandes mobiles, errantes, ravageuses. Comme des loups sortant en meute la nuit, ces jeunes gens se livraient à beaucoup de violence. Cette bande, à Pella, était celle d'Apollon. Elle lui appartenait. Il était un chef de bande, un meneur, un voyou belle-gueule qu'on aurait bien vu dans West Side Story, d'un côté ou de l'autre. On comprend qu'il ait effrayé les dieux lors de son arrivée dans l'Olympe. Apollon portait même souvent le titre de dieu des loups, Lukios ou Lukeios, mot dérivé de Lukos, le loup en grec. Les loups et leurs meutes vagabondes étaient le totem de troupes guerrières agressives et errantes. L'errance prenait aussi des dimensions immenses. Le dieu loup Apollon, en personne, guidait de grands mouvements de population quand des Grecs quittaient leurs villes surpeuplées et partaient en masse à la recherche de nouveaux territoires pour les coloniser et y fonder de nouvelles cités. Portant avec lui la puissance des loups, Apollon assurait l'emprise des arrivants sur ces terres sauvages. En fait, le lien entre Apollon et la violence était tout de suite évident à l'oreille d'un Grec. Dans le son du nom d'Apollon, Apollon, un Grec entendait un sens directement, clairement négatif, celui de destructeur. En effet, Apollon est l'homonyme de l'une des formes que prend le verbe grec qui signifie détruire, apollumi. Mis au participe, le verbe apollumi, je détruis, devient Apollon, détruisant, tuant. Quelqu'un qui est Apollon est un tueur. Les Grecs adoraient jouer sur les sens multiples des mots, des sons. Le langage était pour eux porteur de vérités essentielles, inattendues, étranges, si on lui prêtait vraiment l'oreille, si on savait l'écouter en détail, son après son. Une victime d'Apollon, la pauvre Cassandre, se servira de ce jeu de mots contre le dieu. Cassandre, la plus belle des filles du roi de Troie, Priam, était à Troie une prophétesse inspirée par Apollon. Le dieu l'avait choisi. Il lui avait donné le don prophétique, la capacité d'employer un langage absolument vrai.
Apollon qui me perd, appelez As, tu me perds et sans peine pour la seconde fois. Je vois des enfants qui crient sous le couteau et leurs membres rôtis dévorés par un père.
Oui, nous connaissons tous tes dons de prophétesse, mais nous n'avons ici nul besoin de devins.
Dieu, que prépare-t-on là? Oh! Terrible, cruel, sauvage, intolérable.
Mais un jour, Apollon déchaîna contre Cassandre la tempête d'une tentative de viol. Cassandre a su résister. Comment a-t-elle fait? Elle a trompé le dieu par des mots. Pour arrêter la violence physique du dieu, elle a fait une entourloupe. Puisque Apollon lui a donné le pouvoir divin de dire le vrai, elle lui dit qu'elle est consentante. Il est obligé de la croire, devient plus galant, puis au dernier moment, elle lui dit que non, elle avait menti. Le dieu est vexé doublement, il n'arrive à rien, et chose la pire, il l'avait cru, puisque c'est grâce à lui que Cassandre était censée dire toujours le vrai. Apollon, le dieu de la vérité, a été crédule, il s'est fait avoir. Cela le blesse et le pousse à se venger. Trompé dans son domaine propre, à savoir le langage qui sait dire la vérité, le dieu se venge par une double peine. Apollon fait que plus personne ne croira les prédictions de Cassandre.
Pour nous, tes prédictions ne sont que trop croyables.
Papa, misère! Voici que de nouveau, la transprophétique me fait tourner en rond. Mais croyez-moi ou non, ce qui doit être sera.
Puis, après la chute de Troie qu'elle avait annoncée en vain, il l'envoie se faire assassiner en Grèce, chez Agamemnon. Arrivée en Grèce, elle tombe sur une statue du dieu. Cassandre, la prophétesse, a la vision de sa mort prochaine. Dans un cri de révolte, elle appelle Apollon du nom de tueur, juste avant de mourir. Cassandre fait entendre le sens mauvais du nom du dieu en le répétant.
Apollon, Apollon, mon destructeur.
Apollon, 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 Emos. Il suffit qu'elle ajoute un petit mot, l'adjectif possessif « mon » en grec « émos » à Apollon, « mon Apollon », pour que d'un coup, le nom propre du dieu devienne un nom commun, celui d'un bourreau, mon assassin, un voyou. Pas vraiment magnifique cette fois. Une toute petite lumière apparaît dans le sombre tableau que je viens d'évoquer. Encore une histoire de mots. Les Grecs appelaient l'Apollon sombre et meurtrier du nom du loup, Lukos. Mais en grec, le mot évoque aussi la lumière. Lukos, le loup, sonne presque comme Leukos, mot qui veut dire blanc, d'une blancheur éclatante, mot de la même racine que lux, le mot latin pour lumière. Apollon est bien aussi un dieu de lumière. Les Grecs le savaient et jouaient souvent sur cette ressemblance entre les mots. Apollon les obligeait à penser ensemble, l'évidence éblouissante de ce qui éclaire la vue, la pensée, la raison, et en même temps la présence, sourde, nocturne, d'une menace acharnée. Un dieu clair-obscur.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Marcel de Tienne, helléniste.
Les dieux ont besoin de sang.
Ah,
ils n'en ont pas eux-mêmes, mais ils ont une espèce de liquide différent qui coule dans leurs veines, mais ils ont besoin du sang, la vie du sang.
C'est-à-dire qu'en marchant dans les pas d'Apollon, on traverse des paysages qui sont habités par le meurtre, par des souillures, par des fléaux.
Oui, parce que effectivement, c'est un dieu de la souillure. C'est un dieu qui frappe, qui tue, et qui apporte la mort et la souillure. Donc il faut gratter un peu, on s'aperçoit que ce dieu lumineux, il est très noir, très sombre.
Ces histoires racontent cette ambiguïté, son passage constant de la lumière à l'ombre et retour. Mais d'abord, il lui faut naître. Comme pour la plupart des dieux, ce n'est pas simple. Zeus, comme on sait, est multiple et infatigable dans ses désirs amoureux. Mais après tout, c'est pour notre bien. À force d'engendrer par ses aventures de nouvelles déesses et de nouveaux dieux, il amplifie la richesse du monde qui nous entoure. Zeus s'est uni à Leto, fille de la titane Phoïbe. Ce nom Phoïbe, la pure, la brillante, l'éclatante de lumière, évoque déjà Apollon Phoibos, le Phébus en latin, le dieu pur et lumineux. On ne sait pas grand-chose de cette Leto, la mère d'Apollon, à part qu'elle est comme le miel, douce aux humains et aux immortels. Elle serait, dit-on, la déesse la plus adorable de l'Olympe. Cette qualification surprend. Quand on sait que sa grande gloire, son exploit, est d'avoir fait naître, après son union avec Zeus, une sœur et un frère, Artémis, chasseresse farouche, impitoyable, et Apollon, tous les deux redoutables et infaillibles archers. Leto doit accoucher. Mais tous les lieux où elle va, où elle demande à être reçue, refusent de l'accueillir. Ils ont peur que naisse chez eux son fils Apollon, dont ils craignent la future puissance. Leto devient une errante, sans attache, une perpétuelle refoulée. Elle anticipe ainsi la vie errante de son fils. Leto parcourt la Crète, le pays d'Athènes, toutes les îles, les villes grecques de l'Asie mineure, même les Carpates au nord, rencontrant toujours le même refus. Ces îles, ces villes, ces terres ne veulent pas avoir affaire à l'Apollon qui doit naître. Un seul lieu accepte. La toute petite île de Délos, au milieu des Cyclades. Ce n'est pas un endroit glorieux, mais une île malingre, ingrate, où rien ne pousse, île de très mauvaise réputation, qui n'a rien. Certains poètes présentent même Délos comme une île qui flotte, sans racines, qui erre à la merci des vagues, une île voyageuse, comme Leto aérait jusqu'à ce qu'elle arrive à Délos. Un poète dit que le jour de l'arrivée de Leto, quatre colonnes seraient sorties du fond des eaux pour fixer définitivement Délos. Mais le nom de l'île, Délos, est glorieux. Il veut dire la bien visible, l'évidente. On est donc du côté d'Apollon, de la lumière du dieu. Délos accepte qu'Apollon neige ses ailes, mais à une condition. L'île a peur qu'Apollon soit révulsé à sa naissance, quand il constatera la désolation qui règne dans cette île indigente, dépourvue de tout, qui n'est que vide, manque, absence de toute ressource, de toute richesse. Délos redoute que le jeune dieu ne la méprise et ne s'en aille pour toujours. L'île demande alors à Leto de jurer par un grand serment solennel que son fils ne méprisera jamais Délos, qu'il y établira pour tous les Grecs un sanctuaire grandiose, inamovible. Leto prête ce serment. Mais l'accouchement n'a toujours pas lieu. Il est retardé par Héra, l'épouse de Zeus, qui est bien évidemment jalouse, puisque cet Apollon à naître n'est pas d'elle. Comme elle en a le pouvoir, Héra retient dans l'Olympe la déesse des naissances, la déesse Eileithuia. Elle lui interdit de venir à Délos pour procéder à l'accouchement. De grandes déesses, Aphrodite et sa mère Dionée, Thémis, la déesse de la justice et des oracles, Amphitrite la marine, Rhea la mère de Zeus, étaient là pour accueillir le nouveau dieu. Mais il ne vient pas. Inquiète, ces déesses font parvenir à Eileithuia dans l'Olympe un grand collier d'or pour qu'elle consente à assister Leto. Eileithuia accourt, l'accouchement commence. On dit que Leto s'appuya sur un palmier merveilleux, longtemps célébré depuis.
Quand Eileithuia, la faiseuse d'enfants, dans la souffrance arriva, tout de suite, l'enfantement saisit Leto. Dans l'étreinte de ses bras, elle serra le palmier. Elle enfonça ses genoux dans l'herbe moelleuse. Dessous, la terre souriait. Il jaillit vers la lumière. Toutes les déesses lancèrent un grand cri de joie.
L'hymne à Apollon, d'où est tiré ce passage, on date ce poème du VIe siècle avant notre ère, nous dit que Leto n'allaita pas l'enfant, Tout de suite, la grande déesse Thémis lui donna à boire du nectar et de l'ambroisie, la nourriture des dieux immortels. L'enfant n'allait pas avoir d'enfance. Avec cette nourriture divine, Apollon pouvait agir tout de suite. Le dieu détache les bandelettes qui l'emmaillotaient et sans attendre réclame ses trois fétiches. Les trois domaines où il doit exceller, à savoir la musique avec la lyre, avec l'arc, la violence bien ciblée et précise, et enfin, l'art de la prophétie, avec les oracles.
Qu'on m'apporte ma lyre chérie et mon arc recourbé. Aux hommes, je vais révéler les décisions infaillibles de Zeus.
La lyre et l'arc recourbé se répondent, se complètent. Les cordes de la lyre créent l'harmonie, le plaisir, la fête. La corde de l'arc résonne aussi, mais elle est meurtrière. Le troisième domaine est la prophétie. Apollon l'exercera sur un mode spectaculaire dans son sanctuaire de Delphes. Lyre, arc, oracle, c'est son royaume. Ce sont les trois pôles majeurs de son histoire. Ce royaume est universel. La musique de la lyre est chez elle partout, aussi bien dans l'Olympe que chez les humains. Elle est libre, voyage. L'arc tire de loin. Il est l'arme des chasseurs, des rôdeurs. Quant à la parole sacrée des oracles, elle couvre le monde entier. Elle révèle à chacun, à chaque personne qui interroge Apollon, ce que le père d'Apollon, Zeus, le dieu suprême au pouvoir universel, a décidé pour elle. Rien, dans l'espace et dans le temps, ne lui échappe. Apollon est alors un dieu errant. Comme ses pouvoirs concernent le monde entier, il est un dieu du voyage, qui n'arrête pas de marcher, de s'aventurer. Il court le monde.
Qui êtes-vous ?
Je suis Apollon, le fils de Zeus. N'ayez crainte, je ne dirai rien à Héra. Je suis aussi un enfant illégitime.
À peine né, Apollon se met en route. Mais ce n'est pas pour trahir ou abandonner la pauvre île de Délos. Au contraire, cette île restera à jamais le lieu de sa naissance et les humains viendront en foule y célébrer Apollon. La gloire de l'île est désormais universelle. Délos, dit le poème, se couvrit d'une profusion d'or quand elle vit que le fils de Zeus et de Leto l'avaient choisi comme maison. Prenant leur bateau, les Grecs se rassemblaient régulièrement sur cette île avec épouses et enfants pour des fêtes somptueuses en l'honneur d'Apollon. Ils s'adonnaient à des jeux sportifs, à la danse et au chant. Un festival qui, pour un temps, leur faisait oublier qu'ils étaient des êtres mortels, condamnés à vieillir. Délos était pendant quelques jours un Woodstock, un Jazz in Marciac, un Hellfest ou un Burning Man de luxe. Les humains s'y prenaient pour des dieux. La lyre, la musique savaient créer cela. On chantait le dieu Apollon et les grands exploits des hommes et des femmes du passé. On oubliait le temps. On oubliait que l'on venait de lieux différents, que l'on parlait chez soi des dialectes différents. Le chant harmonieux réunissait tout le monde. Mais il faut mettre un bémol. Cet enchantement ne durait qu'un moment. Après le festival, il fallait reprendre son bateau, retrouver les travaux pénibles du quotidien, la vieillesse, puis la mort. Pendant que les humains s'exaltaient, s'imaginaient immortels à Délos le temps de quelques concerts, Apollon donnait un récital dans l'Olympe, uniquement pour les dieux. Il s'y moquait des mortels. Avec sa lyre, il charmait les dieux. Les muses lui répondaient en chœur. Elles ne chantaient pas la grandeur des hommes et des femmes du passé, mais les plaisirs des dieux. Et par contraste, la faiblesse des humains, leur souffrance, leur imbécilité, leur incapacité à trouver un remède à la vieillesse et à la mort. Aphrodite, les grâces, Harmonie, la déesse de la jeunesse, et même Artémis, la chasseresse, et même le dieu de la guerre, Arès, et aussi Hermès, le fourbe, faisaient la ronde en se tenant délicatement le poignet, pendant que les pas de danse d'Apollon étaient nimbés de lumière. Les dieux s'amusaient en chantant nos malheurs. Après la musique et la lyre, il fallait encore réaliser les pouvoirs de l'arc et de la prophétie. S'éloignant de Délos, Apollon s'aventure seul, dans des contrées sauvages. Après plusieurs rencontres hostiles, il arrive au pied d'une montagne, le Parnasse, grande roche dure, abrupte. Une vallée âpre borde la montagne. On est à Delphes. Encore une fois, un lieu à l'écart, peu accueillant, comme l'était l'île de Délos. C'est là qu'Apollon décide de construire le grand temple qui lui sera consacré. dans ce lieu ingrat, éloigné. Il veut que se réunissent des foules de mortels qui lui offriront d'immenses sacrifices en immolant des centaines de bœufs. Le dieu, en échange, leur communiquera ses oracles infaillibles. Apollon, le dieu des chemins, ne va pas vers les mortels. Il ne les cherche pas. Dans une zone vide, sauvage, il crée un lieu où son renom, sa splendeur, attireront des masses énormes de gens venus de partout. Lui, le dieu errant, il oblige les humains à sortir de chez eux, à voyager. Mais à Delphes, le lieu n'est pas libre. Il est habité par un monstre, un immense serpent femelle, qui persécute les humains, dévore leurs troupeaux. Quiconque le rencontrait était mort. Ce monstre est l'horrible en soi, le contraire de la beauté des dieux de l'Olympe. Mais, étant serpent, il est proche de la terre. En cela, il est archaïque, primordial. Une légende bien établie dit que la déesse Terre était la première divinité à prophétiser à Delphes. Déesse des débuts, elle a donné naissance à de nombreux êtres en sachant ce qu'ils allaient devenir. Elle pouvait donc dire l'avenir. Le serpent terrien est ce qui reste de la puissance première de la déesse Terre sur le lieu. D'une flèche, sans hésiter, Apollon élimine la bête.
Elle, déchirée de douleurs insupportables, était à terre, haletante, enfermant tout le lieu dans ses boucles. Un cri prodigieux, infini, surgit. Dans la forêt, là et là, elle tournait en cercle serré. Puis elle abandonna sa force, dans un souffle de sang.
Mais peut-on ainsi se débarrasser d'un être qui porte avec lui la force de la terre, qui porte le souvenir des origines, même s'il est monstrueux? Le monstre ne sera pas effacé, il restera. Et de la manière la plus étrange. Encore une affaire de jeu de mots. Le lieu s'appelait traditionnellement Pytho, Pytho en grec. Le sens de ce nom n'est pas connu. La légende va lui en donner un, inattendu. Apollon, le dieu tueur, dit au monstre mourant qu'il a décidé de laisser pourrir son cadavre sur place, sous les rayons du soleil. Pourrir se dit en grec putestai. C'est la même racine que les mots français « putréfaction » ou « le pu ». Cette pourriture donnera son nom au monstre. Il sera appelé « Pytho », d'où notre python pour certains serpents. Le monstre terrifiant n'existera plus dans les mémoires que comme « Pytho », la pourrissante. Mais plus surprenant encore, l'Apollon de Delphes, tueur de monstres, portera désormais un titre qui rappelle cet exploit, mais qui surtout rappellera pour toujours la pourriture de la bête. Tueur du serpent Pytho, Apollon sera appelé Pythien, Pythios. La prêtresse inspirée qui révèle les oracles du dieu portera le nom de Pythie. Les jeux qui ont son honneur seront organisés à Delphes porteront le nom de Jeux Pythiques. La pourriture est omniprésente. Elle rappelle une victoire héroïque du dieu, mais aussi la permanence du monstre en putréfaction. Le meurtre du serpent, du gardien sauvage de Delphes avant l'arrivée d'Apollon, ne peut être oublié. Dans certaines légendes, il est dit qu'Apollon doit payer ce meurtre en se faisant l'esclave d'un mortel.
Entre dans la lumière d'Apollon, la lumière qui éclaire les ombres. Choisis bien ta question, mortel, car tu n'en poseras qu'une. Cherche la vérité.
La langue est toujours fourbe, rusée. Delphes, avec l'oracle pythique du dieu, est un haut lieu du savoir, puisque Apollon sait tout. Or, comme l'ont souligné des poètes grecs anciens, savoir se dit aussi avec un verbe putestai, qui n'a rien à voir avec pourrir. C'est une autre racine. Encore une question d'homonymie. Un hasard de la langue qui en dit long. Putréfaction et savoir se rejoignent. La science claire du dieu n'est pas que lumière. Elle s'appuie sur la pourriture, sur la mort infecte que le dieu a causée à Delphes et qu'il a laissée bien visible au soleil. La science divine a cette condition, l'aspect sombre, terreux, violent de la vie et de la mort. Apollon est à Delphes un dieu guérisseur, un dieu qui purifie, qui lave les souillures, qui pratique ce que les Grecs appelaient la catharsis, la purification. Mais l'histoire de Pytho montre que cette capacité repose sur une connaissance intime, permanente de la souillure. Sans doute qu'on ne peut traiter les miasmes, les éloigner que si on en est imprégné. il n'y a pas de pureté totalement pure. En allant de Délos à Delphes, Apollon a donc rempli son programme. Il a réalisé ce que peuvent accomplir la lyre, l'arc et les oracles, ces trois attributs, ces trois compétences essentielles. Avec cette histoire, leurs liens apparaissent, je crois, un peu mieux. Commençons par l'arc. Il tue de loin, cible par cible. L'archer peut être invisible, couvert d'ombre. Il est sûr de son coup, si comme Apollon, il s'est tiré. Il peut y avoir beaucoup de victimes, mais c'est homme par homme. L'arc désigne de loin qui il faut tuer sans se faire voir. Il n'y a pas de lutte. L'Iliade d'Homère commence par une telle tuerie. Apollon en est l'auteur. Il est en colère contre les Grecs à Troie, car le chef des Grecs, Agamemnon, mal avisé comme toujours, a humilié un prêtre d'Apollon. Irrité, le dieu descend de l'Olympe avec son arc d'argent pour décimer l'armée des Grecs. Il venge son prêtre. Invisible, solitaire, pareil à la nuit, Apollon se rend au camp des Grecs. Avec ses flèches, 9 jours durant, il en renvoie une épidémie de peste.
Apollon descendit des crêtes de l'Olympe, irrité dans son cœur. Il avait à l'épaule l'arc et le carquois clos des deux côtés. Les flèches sonnèrent haut sur l'épaule du dieu irrité quand il se mit en route. Il allait, pareil à la nuit. Puis il s'assit à l'écart des bateaux des Grecs et lâcha une flèche. Un haut son terrifiant vint de l'arc d'argent. Il atteignit en premier les mulets et les chiens agiles. Ensuite, lançant des traits qui pénètrent, il frappa les hommes. Sans cesse, flambés, serrés, les bûchers des morts. 9 jours, les dards du dieu parcouraient l'armée.
Ce massacre sournois, imparable, lancera toute l'action de l'Iliade. Les Grecs ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il faudra qu'un devin, inspiré par Apollon Calchas, leur révèle pourquoi le dieu était en colère.
Je ne change pas de costume, il faut que je change de peau. C'est un autre feu que j'allume, ce sera sans doute le plus beau. Dans ce ciel que je ne connais pas, ma mémoire brûlera. Je me balance au bout d'un fil. Et qu'importe qui le coupera, on ne sait jamais rien de l'exil. Est-ce l'alpha ou l'oméga? Est-ce l'alpha ou l'oméga? Je ne sais pas. Oui, j'oublierai mes brumes. Faudra marcher sur l'eau. C'est vrai qu'il me fallait renaître, apprendre un autre scénario. Je me balance au bout d'un fil et qu'importe qui le coupera. Ne déchirez pas cette lettre, c'est tout ce qu'il vous restera de moi. N'y voyez aucune amertume, n'imaginez aucun désarroi. Je me balance au bout d'un fil, et qu'importe qui le coupera. On ne sait jamais rien de l'exil. Est-ce l'alpha ou l'oméga? Est-ce l'alpha ou l'oméga? Je me balance au bout d'un fil, et qu'importe qui le coupera. On ne sait jamais rien de l'exil. Est-ce l'alpha ou l'oméga? Est-ce l'alpha ou l'oméga? Je ne sais pas.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe parle d'Apollon, un dieu magnifique et sanguinaire.
Après l'arc, l'oracle. L'oracle de Delphes dit aux humains anxieux ou préoccupés ce qui les attend. Mais il ne dévoile pas la vérité. Il ne la dissimule pas non plus. Il donne un signe. Il révèle à ceux qui l'interrogent qu'il y a pour eux, dans l'avenir, quelque chose d'inévitable, sans dire clairement ce que c'est, ni où, ni quand cela arrivera. Comme une flèche, l'oracle pointe de loin vers un événement futur. Le questionneur aura à se débrouiller avec cela. Le philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, Héraclite dit l'obscur, le grincheux, a défini la manière de parler d'Apollon à Delphes. Le maître, à qui appartient l'oracle, celui de Delphes, ni ne dit, ni ne cache. Il indique. Apollon, selon Héraclite, n'est pas intéressé à faire des phrases bien articulées, bien construites, sujet, verbe, complément, comme on l'apprend à l'école. Des phrases où il mettrait bien en ordre la réalité pour la rendre visible et communicable. Il n'est pas non plus intéressé à brouiller les pistes, à ne pas dire et à tromper. Il fait un signe qui, de loin, désigne ce qui sera réel pour tel ou tel individu. Apollon ne répond pas directement à ceux qui viennent le consulter. C'est pour cela qu'on dit qu'Apollon à Delphes est oblique, l'oxos. On l'appelle l'oxias. Ainsi, Œdipe, qui lors d'un jeu entre jeunes gens s'est fait traiter de bâtard, quitte Corinthe, la ville de ceux qu'il croyait être son père et sa mère, et qui en fait l'ont adopté. Il va précipitamment à Delphes interroger le dieu sur sa naissance. Est-il bâtard ou non?
Mets ton art à notre service, parle.
Hélas, je suis fou d'être venu. Je ne veux rien dire, rien dire. Je ne peux dévoiler ton malheur.
Tu sais et tu te tais. Nous te supplions. Parle, parle.
Apollon lui répond à côté, en lui annonçant qu'il tuera son père et couchera avec sa mère. Effrayé, Œdipe ne rentre pas chez lui. Et sur la route qu'il prend par hasard, il rencontre son vrai père, qu'il ne connaît pas, et le tue, puis épouse sa mère sans le savoir. Le dieu était clair. Il avait raison. Mais il fallait comprendre ce qu'il y avait sous les mots, comprendre quelle réalité ils indiquaient. Autre exemple, plus comique si on veut, Crésus, roi de Lydie au 6e siècle avant Jésus-Christ, un roi historique, était très riche. Mais visiblement pas assez. Il veut faire la guerre à son voisin, le roi de Perse, Cyrus. Il consulte l'oracle de Delphes. Apollon lui répond que s'il fait la guerre, il détruira un grand empire. Confiant, Crésus commence sa guerre. Il la perd et perd son royaume. Il n'avait pas compris que le grand empire qu'il détruirait serait le sien. Avec l'Apollon de Delphes, les mots indiquent des événements précis que les humains devront affronter. Ils posent un repère pour l'avenir. Charge à celui qui reçoit l'oracle de deviner de quoi il s'agit. Comme les humains sont impuissants, le sens du mot divin n'apparaît souvent qu'une fois la chose advenue. Elle est souvent mauvaise.
Nous pouvons gagner!
J'ai parlé à deux fermiers aujourd'hui. Ils ont aperçu un aigle qui volait, un reptile, coincé dans ses serres. Cela est un signe du dieu Apollon. Nous remporterons une grande victoire demain.
Des présages. Vous établissez une stratégie en vous basant sur des présages.
Sois plus respectueux. Un grand prêtre est un serviteur des dieux.
Et la lyre, elle console, elle met de l'ordre. L'arc et l'oracle accomplissent ou annoncent des choses qui peuvent être terribles, qui déroutent, qui démontrent la faiblesse des humains face à la réalité, à savoir celle qu'imposent les dieux. Le chant reprend tout cela, tous ces innombrables malheurs. Il en fait des mélodies, des poèmes continus, harmonieux. Les déboires que vivent les humains peuvent par là, si on les chante, si on sait les mettre en forme, devenir de la beauté, même si les désastres vécus ont été cruels. Certains Grecs comme Aristote appelaient cela la purification qu'apporte la musique bien faite, la catharsis, comme celle qu'opérait le dieu purificateur de Delphes. De l'arc à la lyre, des malheurs à la poésie, le cycle est complet. Dans cette histoire, Apollon est plutôt triomphant, glorieux, adulé. Pour le moment, il n'y a que Cassandre qui ait su le berner. Mais les aventures du dieu sont pleines d'épisodes où Apollon n'est pas très brillant, où il échoue, où il doit payer ses crimes, où il se fait abuser. Un dieu vraiment humain. Il faudra revenir sur ces histoires nombreuses, comme celle des troupeaux d'Apollon, que le dieu se fait voler par son petit demi-frère Hermès, plus malin que lui, et qu'il a un mal fou à retrouver, bien qu'il soit devin. Ou l'histoire de la belle Daphné, la chasseresse. À peine il la voit, Apollon est saisi de désir. Il court après elle. Mais au dernier moment, la mère de Daphné, qui serait la déesse Terre, sauve sa fille en la faisant disparaître. Elle fait pousser à sa place un laurier. Selon le poète latin Ovide, Daphné est elle-même métamorphosée en laurier. Apollon se trouve gros Jean comme devant. Mais ne voulant pas tout perdre, il s'empare du laurier et en fait sa plante fétiche. À cause du refus de la jeune fille, le dieu doit apprendre à ne pas tout avoir et à vivre avec un symbole. Deux histoires, toujours en lien avec des femmes mortelles, montrent à la fois la puissance souveraine d'Apollon et sa faiblesse. Apollon, le dieu errant, est borderline. Il est à la limite entre l'immortalité qui est la sienne par sa naissance et la mortalité des humains, à qui il ne cesse d'apporter la violence, de la leur annoncer et de temps en temps à qui il offre la beauté par sa musique. Il est en voyage entre les deux mondes, divin et humain. Voici l'histoire triste de la violence d'Apollon contre les enfants de Niobé, une mortelle. Niobé était à Thèbes, l'épouse d'un fils de Zeus, un mortel nommé Amphion. Cet Amphion avait beaucoup à voir avec Apollon. On dit qu'il a construit les remparts fabuleux de la ville de Thèbes, la cité aux sept portes, seulement en jouant de la lyre. Les pierres, au son de sa musique, se déplaçaient et s'assemblaient d'elles-mêmes. Niobé, une mortelle, était, dit-on, très amie de Leto, la mère divine d'Artémis et d'Apollon. Mais un jour, elle se vanta pour son malheur d'avoir été plus féconde que son amie Leto. Celle-ci n'avait eu que deux enfants, Artémis et Apollon. Niobé, 12, 6 filles et 6 garçons. Blessée, Leto devint furieuse. Elle demande à ses deux enfants de massacrer avec leur arc les 12 enfants de Niobé. Artémis se chargeant des filles, Apollon des garçons. Ils le firent. L'histoire est racontée par Homère à la fin de son Iliade. Achille essaye de consoler son vieil ennemi, le roi Priam, qui a perdu tant d'enfants pendant la guerre de Troie. Priam, accablé, refuse de manger. Achille, qui a pitié de lui, cite l'exemple de Niobé pour persuader Priam d'accepter un repas. Bien qu'affligé par la mort de ses 12 enfants, Niobé a continué à se nourrir. L'histoire que raconte Achille est vraiment étrange.
Maintenant, Priam, ayons en tête le repas. Car tu vois, Niobé à la belle chevelure eut aussi la tête de manger, elle dont les 12 enfants furent anéantis dans son palais, 6 filles et 6 fils en pleine jeunesse. Les fils, Apollon les tua de son arc d'argent par colère contre Niobé. Les filles, Artémis qui répand ses flèches,
parce qu'elle se comparait à Leto aux belles joues et disait que Leto en avait engendré deux, et elle une foule. Pour cela, bien que n'étant que deux, ils anéantirent tous ses enfants.
Mais les choses ensuite tournent bizarrement. Les 12 enfants ne sont pas enterrés. Il n'y a personne pour le faire, car Zeus, on ne sait pourquoi, a transformé tous les habitants de Thèbes en pierre. Ce sont alors les dieux, vraisemblablement Artémis et Apollon eux-mêmes, qui doivent s'occuper des cadavres. Laisser les corps de ces enfants sans sépulture serait une souillure, insupportable pour les dieux. Mais les ensevelir suppose qu'on les manipule, et donc qu'on se souille soi-même.
9 jours, les enfants restaient étendus dans leur sang, et il n'y avait personne pour les ensevelir. Le fils de Cronos, Zeus, avait changé les habitants en pierre. Au 10e, les dieux, enfants d'Uranos, les ensevelirent.
C'est un grand paradoxe. Les dieux, normalement, ne doivent pas s'approcher des morts, des cadavres. Immortels, ils n'ont rien à voir avec ce qui leur est le plus contraire, un mort. Mais il n'y a plus de vivants à Thèbes. Ils ont tous été transformés en pierre. La ville est morte, pétrifiée. Mais du coup, ce sont les êtres dont la vie est éternelle, les dieux, qui doivent s'occuper des morts. Apollon, le tueur, doit cette fois manipuler les cadavres qu'il a produits. Le dieu de la pureté est obligé de connaître l'impureté des morts.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. We'll be right back.
Pierre Judet de la Combe évoque le dieu Apollon, un voyou séduisant.
Face à cette force qui émane des humains, le dieu Apollon est impuissant. Il est transformé malgré lui en fossoyeur. Il a lui-même un pied dans la tombe. Il a l'expérience des cadavres, qu'il les laisse pourrir comme le serpent Pitho, ou qu'ils doivent les enterrer comme les enfants de Niobé. Dieu qui voyage, qui ne cesse de franchir des limites, Apollon ne cesse de mettre en question la limite absolue, rigide, qui sépare homme et dieu, la mort. C'est pour conclure ce qui arrive avec l'histoire de la belle Coronis, une mortelle. Apollon l'a aimée, elle attend un enfant de lui. Mais la jeune femme était sûre que le dieu l'abandonnerait. Elle épouse alors en secret un mortel. Apollon la prend, ou bien parce qu'il est devin, ou bien parce qu'une corneille, en grec coronet, lui apprend la trahison de Coronis. Furieux contre l'oiseau messager pour le mauvais message qu'il lui transmet, Apollon change la couleur de la corneille. Elle était blanche, elle sera noire à jamais. Toujours furieux, Apollon demande à sa sœur Artémis d'éliminer avec ses flèches la femme qui l'a trahi. Coronis meurt, mais Apollon recueille l'enfant. Ce sera Asclépios. Ce fils apprendra d'Apollon ou d'un autre la médecine. Il trouvera enfin le moyen de guérir les humains de la mort. Asclépios fera remonter des enfers plusieurs mortels. Zeus est révolté par cette prouesse qui met radicalement en question l'ordre des choses. Il lance sa foudre contre Asclépios et le tue. Plus aucun mortel ne ressuscitera. Apollon, pour venger son fils, frappe de ses flèches les cyclopes qui, dans leur forge divine, fabriquent la foudre de Zeus. Apollon dut payer son acte de rebelle. Puisqu'il se soucie autant des mortels, il sera envoyé pour un temps en esclavage chez l'un d'entre eux. Ces aventures et mésaventures du dieu Apollon, le voyou magnifique, cruel et musicien, arrogant et berné, montre bien qu'un dieu n'est dieu redoutable, adoré et puissant, que s'il est imparfait, que s'il y a en lui de l'humain, que s'il frôle la mort. Si les dieux peuvent dominer les humains avec une telle force, c'est qu'ils savent aussi ce qu'est l'humanité. Ils la portent en eux.
Jacqueline de Romilly.
Ces figures des dieux sont des figures humaines, plus grandes, plus rayonnantes, plus belles, mais humaines. Ce sont des dieux très humains et du coup, ce sont des hommes un peu divins.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Léa Dauvergne et Laurent Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Valérie Lavalard et le mixage par Jean-Louis Deloncle.